Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur RTL et dans votre magazine de société. On est fait pour s'entendre. Cette semaine était riche en réflexions et en enseignements. Et je vous invite d'ailleurs à profiter de ce week-end pour découvrir les émissions qui vous auraient échappé en replay sur l'application RTL. La conversation est un voyage pendant lequel nous naviguons entre le tutoiement et le vouvoiement en fonction de ceux auxquels on s'adresse, de leur position sociale, de la hiérarchie, de nos valeurs et de nos inclinations. Rien n'est plus réfrigérant que de dire vous à quelqu'un qui vous tutoie, décrétait Sacha Guitry. Si le vous apparaît comme la règle de politesse, le tu est-il toujours l'indice de la familiarité? La frontière entre le tu et le vous étant de plus en plus mince, qu'est-ce que cela implique de la franchir? Tutoyons-nous trop facilement de nos jours? On en parle avec nos invités. Julie Neveu, bonjour.
Bonjour, très
vite. Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes dramaturge, agrégée d'anglais, maîtresse de conférences en linguistique à l'Université de Paris-Sorbonne. À vos côtés, Michel Feltin-Palas. Bonjour Michel.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu. Vous êtes rédacteur en chef à L'Express et auteur sur le site de L'Express d'une lettre d'information sur la langue française et les langues de France. Et ça s'intitule « Sur le bout des langues ». Et puis à vos côtés, Étienne Kern. Bonjour Étienne Kern.
Bonjour Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes professeur en classe préparatoire et auteur de l'ouvrage « Le tu et le vous, l'art français de compliquer les choses » chez Flammarion. Depuis quand le « vous » s'est-il inscrit dans les codes, je dirais, de nos conversations?
C'est pour moi, très bien.
C'est pour vous, Étienne. C'est pour vous, on commence avec vous, si vous le voulez bien.
Eh bien, c'est un héritage du latin, c'est très ancien, ça remonte à la fin de l'Antiquité, vers 300-400. Et du coup, ça passe en français quand le latin évolue pour devenir le français. Et ce qu'on pourrait noter, c'est que pendant des siècles, on a eu le choix. On pouvait très naturellement passer d'une forme à l'autre dans la même conversation.
Et quel que soit notre interlocuteur.
Exactement. Souvent, dans la même lettre, par exemple, à un dignitaire du passé, on a les deux formes. Je prends un petit exemple, la correspondance de Charlemagne. On est vers l'an 800, donc. Et on a des lettres d'un ministre à Charlemagne, où dans certaines lettres, il n'y a que le tu, dans l'autre, que le vous, dans d'autres, les deux. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une seule lettre où il n'y a que le tu, et c'est une lettre où le ministre entreprend de consoler Charlemagne qui vient de perdre sa femme. Et donc ce tu est finalement un tu d'amis qui essaie de consoler son...
Un tu étreinte, quoi.
Exactement, voilà.
Ouais. N'est-ce pas Napoléon Bonaparte qui l'a imposé aussi un jour en disant maintenant, le vouvoiement, c'est la règle de politesse et le tutoiement, on est dans une sorte de familiarité?
Pas de manière aussi nette.
Aussi claire que ça?
Au niveau des usages en vigueur à la cour. Il a tenu à restaurer une forme de grandeur qui caractérisait la monarchie après la Révolution, mais ça passe pas par un décret ou autre.
D'accord, mais ça passait par le vouvoiement.
Oui.
Voilà. Donc, la grandeur, Julie Neveu, le respect, puisqu'on le retrouve dans beaucoup de messages de nos auditeurs, passerait par le vouvoiement.
Oui, disons que, oui, en linguistique, on dit que ces deux formes forment un microsystème, le tu et le vous, le t et le v, système d'alternance qu'on retrouve dans la plupart des familles de langues indo-européennes, en fait.
C'est ça.
Et donc, il y a les langues romanes, l'italien, l'espagnol. Il y a les langues slaves aussi, le russe, le hongrois, tout ça. Et c'est vrai que cette alternance, eh bien, en général, se répartit des emplois. Et donc avec le « t », « tu », et puis les formes qui ressemblent, ce sera la proximité. Avec le « vous », plutôt la distance. Est-ce que la distance va se dire parce que c'est une forme du pluriel, voyez, comme en espagnol, en français, ou alors avec l'italien, parce que c'est une forme de la troisième personne du singulier, où là, c'est une distance parce qu'on ne s'adresse pas directement à la personne à qui on parle. C'est assez intéressant, toutes ces variations.
On va voyager un petit peu dans cette émission. On aura notamment une personne, une auditrice qui vit en Allemagne, qui a vécu au Mexique. Et on aura Alex Taylor aussi tout à l'heure, qui est humoriste et qui, lui, effectivement, nous expliquera comment en arrivant en France et venant d'Angleterre, Paul Taylor, pardon, en arrivant en France et venant d'Angleterre, il a eu donc à se confronter à l'usage du vouvoiement. Est-ce qu'on tutoie facilement de nos jours? Beaucoup plus facilement quand même, Michel Feltin-Palas.
Oui, il y a eu une évolution. Je suis moins spécialiste que les deux autres invités.
Oui, mais la langue, vous la connaissez.
Notamment à cause d'un événement qui est mai 68, qui, de manière générale, souhaitait casser les codes de la société bourgeoise, comme on disait à l'époque. Et parmi ces codes, il y avait le vouvoiement et le respect de la hiérarchie que marquait le vouvoiement entre professeurs et élèves, entre salariés et supérieurs hiérarchiques. Et l'une des évolutions de mai 68, aujourd'hui, consiste à tutoyer plus facilement, notamment dans les entreprises.
Donc, est-ce à dire que le tutoiement à cette époque-là était synonyme d'une forme de transgression?
Oui, bien sûr.
De révolution,
quand
je dirais.
Quand on se met à tutoyer son patron, évidemment, c'est une transgression.
Julie Neveu.
Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, c'est plus trop une transgression, mais une posture de familiarité dans les entreprises.
Exactement.
Où ça peut être imposé, alors qu'il n'y a pas de vraie motivation pour ça. Quoi.
Vous parliez de distance, Julie Neveu. On va accueillir Delphine sur cette antenne, puisqu'elle trouve que le vouvoiement, justement, impose la bonne distance. Bonjour Delphine.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL, merci beaucoup. Vous avez 36 ans, vous vivez à côté de Vichy, vous êtes commerçante, donc vous êtes amenée à rencontrer des gens, et puis vous, j'imagine, on y reviendra, vous avez des clients réguliers, d'autres qui sont des inconnus, qui passent dans votre commerce. Au fil des années, le vouvoiement vous dérange de moins en moins, vous le trouvez même classe.
Ah oui, moi je le trouve complètement classe, et j'aime que l'on me vouvoie. Je trouve que c'est une marque de respect. Je ne me vois pas, moi, tutoyer tout le monde, par exemple.
On va se retrouver dans un instant, Delphine, car le respect revient dans beaucoup de messages. Certains nous expliquent qu'il ne suffit pas de tutoyer pour être respectueux et de vouvoyer pour l'être également. On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. Nous sommes en direct jusqu'à 15h30. On attend évidemment tous vos témoignages et toutes vos réactions. Et on entendra aussi des moments d'histoire et même des moments d'amour avec le vouvoiement et le tutoiement. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
C'est Patricia Cass, ça me revient là comme ça, qui avait écrit une chanson, ou qui chantait, en tout cas interprété une chanson, c'est Je te dis vous. Vous la connaissez, Étienne Kern ? Vous la connaissez aussi, Julie Neveu ?
J'étais voilà. Au premier concert de Patricia Cass. C'est mon premier concert à moi, je veux dire.
Ah bah
j'ai assisté, quoi.
Voilà, j'ai bien compris. Aujourd'hui, on s'intéresse au vouvoiement et au tutoiement en compagnie de nos invités. Julie Neveu, donc fan de Patricia Cass, qui est dramaturge et agrégée d'anglais et maîtresse de conférences en linguistique à l'Université de Paris-Sorbonne. Vous avez des CV longs comme le bras, tous, hein, autour de cette table. Et Michel Feltin-Palas, qui est rédacteur en chef de l'Express, je m'arrêterai là, vous ne m'en voudrez pas. Hein. Et puis, vous êtes auteur aussi d'un livre coécrit avec Jean-Michel Apathy, J'ai un accent, et alors, parce qu'on vous reçoit régulièrement pour parler des accents chez Michel Lafon. Étienne Kern, qui est donc professeur en classe préparatoire et auteur de l'ouvrage Le tu et le vous, l'art français de compliquer les choses chez Flammarion. Pourquoi est-ce que c'est compliqué, Étienne Kern?
C'est compliqué pour plein de raisons. Parce qu'en fait, ça nous confronte à une part d'irrationnel. Il y a des règles, il y a des codes qui sont difficiles à délimiter, mais en gros, ça tourne autour de la distance, enfin, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. S'il y a une grande distance sociale, ou en termes d'âge, ou une distance affective, il y aura plutôt vous, et quand il y a une proximité, il y a plutôt tu. Mais en fait, en pratique, quand on regarde chaque situation concrète, chaque situation d'énonciation, ben déjà, on va s'adapter au choix fait par l'autre personne. Si la personne nous tutoie, nous vouvoie, eh bien, on va s'ajuster, ou non, ou pas oser s'ajuster, enfin, c'est extrêmement complexe. Et aussi parce que ces jeux engagent en fait notre propre moi, notre personnalité, la mémoire sociale qui vit en nous, nos complexes. Il y a des gens qu'on ne peut pas tout simplement tutoyer ou vouvoyer. Si je peux me permettre de prendre un exemple, dans le lycée où j'enseigne, alors qu'en général, entre profs, on se dit tous tu, hein, c'est un code professionnel. Il y a un collègue que je n'ai absolument jamais pu tutoyer, parce qu'il était le père d'une amie très proche qui malheureusement est décédée. Et ça engage pour moi des choses tellement anciennes, tellement profondes, tellement émues, que face à lui, c'est la statue du commandeur chez
oui.
Molière.
Vous restez.
Sacré. Je reste. Voilà, le respect s'impose
à moi. Le copain de sa fille, quoi. Enfin,
voilà,
un ami de sa fille.
Je ne peux pas lui dire autre chose que vous.
Alors, le respect, on en parle avec vous, Delphine, hein, justement. Vous êtes en ligne avec notre antenne et vous expliquez que le vouvoiement, pour vous, imposait la bonne distance. Pascal nous écrit « Je tutoie facilement, mais nous restons dans une société normée. Pas facile de savoir, alors je demande en fonction je tutoie ou je vouvoie. » Donc, il y a l'invitation à tutoyer. Et on se dit « tu », on y reviendra dans un instant parce qu'on n'est pas tous d'accord et on souscrit ou pas, hein, évidemment, à cette invitation. Olive sur Facebook. « Le vouvoiement est une forme de respect. Je tutoie néanmoins très facilement. En revanche, dans un cadre professionnel, si on ne m'y invite pas, je vous vois, mais en appelant mon interlocuteur par son prénom. Et Bertrand, j'ai peut-être le tutoiement facile, parfois, mais une chose est certaine, c'est que le vouvoiement n'est pas synonyme forcément de respect. Il suffit de regarder à l'Assemblée nationale, ils se vouvoient, s'insultent comme des alcoolos de comptoir, c'est le propos de Bertrand. Si on est un minimum éduqué, le tutoiement ne pose aucun souci et peut même avoir des barrières, les mêmes codes sociaux que le vouvoiement. Delphine, vous n'aimez pas forcément que l'on vous voit d'office.
que l'on me tutoie.
Que l'on vous tutoie d'office, pardonnez-moi, oui. je vais me promener entre les deux.
Oui, j'aimerais oui, qu'on vous voit peut-être plus facilement, mais c'est le cas la plupart du temps. Mais c'est vrai que dans la relation commerçante-client, vous préférez quand même être vouvoyé ou vous voyez vos clients. Je trouve que ça met effectivement une bonne distance quand il y a des choses à dire, à demander. C'est plus respectueux. Je trouve ça plus facile dans la communication.
Dans la vie, donc, vous voyez davantage je l'entends, par respect, par souci effectivement de cette distance. En tout cas, ne pas se vautrer dans une forme de familiarité hein, dans votre vie professionnelle. Dans votre vie personnelle, le tutoiement est plus aisé ?
Complètement.
D'accord. Donc pour vous, c'est une frontière.
Oui, voilà. Mais je pense aussi que c'est une question de personne. Je sais que j'ai par exemple un collègue qui est devenu un ami. Il arrive un moment, je lui ai dit, on peut se tutoyer, j'en peux plus te vouvoyer.
Ouais.
Voilà, mais tout dépend de la personne aussi.
Quand vous avez dans votre commerce des personnes qui viennent, des personnes âgées, j'imagine que le vouvoiement est une évidence. Quand vous avez des personnes plus jeunes que vous qui viennent dans votre magasin, voire des adolescents.
Eh ben, les ados, je me pose la question justement. Ah. Je me dis, quand je leur demande la monnaie, je dis, oh, je viens de le tutoyer, mais est-ce qu'il aime être tutoyé cet ado? Et pourquoi je le tutoie? Est-ce que c'est parce qu'il est jeune? Mais est-ce qu'il aime? Mais je me pose la question.
Julie Neveu, vous êtes enseignante aussi. Hein?
Tout à fait.
Alors, comment ça se passe justement? Parce qu'il est des professeurs hein, qui vous voient leurs élèves.
On a chacun nos habitudes, je pense. Mais ce que je trouve intéressant par rapport à ce que Delphine disait, c'est qu'elle aime en effet qu'on respecte tout à fait le côté officiel de son travail. Et donc, elle est une personne différente dans son magasin que chez elle. Et c'est vrai que tout ça, ce sont des habitudes culturelles enracinées, habituelles. Au Québec, par exemple, c'est le tu qui est beaucoup plus fréquent. Donc, dans un magasin, on se tutoie. Mais donc, oui, moi, en tant que prof, eh bien, j'ai commencé à enseigner quand j'avais 20 ans et du coup ils avaient quasiment mon âge parce que c'était à la fac et donc je sais pas si c'est à cause de ça, je sais pas, peut-être que même si j'ai commencé plus tard, mais en tout cas j'ai directement vouvoyé tous mes étudiants peut-être pour instaurer cette distance et je n'ai jamais abandonné ça, même quand je les vois beaucoup, même quand certains deviennent un peu mes amis, si on peut dire, ce qui arrive parfois et qui me demandent si on peut, et je n'y arrive pas et pour moi c'est très important aussi pour que le cadre du cours soit un cadre apaisé, où il n'y ait pas d'enjeu affectif. En fait, ce que vous permet, c'est de dire, voilà, on se parle, est-ce que moi, mon rapport entre moi, enseignante, et vous, élève, c'est simplement un rapport de pédagogie, de contenu, d'enseignement que je vous transmets. Rien d'autre ne doit entrer en jeu, pas d'affect, pas de chantage affectif, rien.
Donc c'est une porte fermée, en tout cas, à une certaine familiarité, ou en tout cas à des libertés qu'on pourrait s'octroyer à votre endroit. Étienne Kern ?
Oui, je tiens moi aussi au vouvoiement dans la relation pédagogique, aussi parce que ça crée une réciprocité.
Oui.
Les règles sont claires, il y a vous des deux côtés, il n'y a pas ce déséquilibre qui porte malgré tout une charge hiérarchique qui peut mettre mal à l'aise des, surtout les étudiants, en fait, des gens plus âgés.
Michel Feltin-Palas, on parle de code et c'est vrai qu'aujourd'hui on a le sentiment quand même qu'on s'affranchit des codes. Chacun utilise le vous et le tu à sa manière en fonction de ce qu'il est.
Oui, je crois que ça rejoint une évolution générale de la société. Il y a 100 ans, mettons, on était assigné à une certaine religion, à une certaine région, à un certain métier. La société était assez cadenassée. Politiquement, on variait assez peu. Aujourd'hui, on est beaucoup plus libre par rapport à la religion, par rapport aux affiliations politiques, par rapport à notre lieu de vie. Et cette liberté que l'on a gagnée rend chacun à son individualité. Et je crois que ça vaut aussi, ça s'applique également à l'emploi du tu et du vous. Donc je crois que chaque francophone crée sa propre règle.
Et ça en dit long.
Et ça en dit long, parce que du coup, la norme étant moins forte, notre liberté est d'autant plus grande, mais on est aussi un peu perdu, d'où les hésitations face auxquelles nous sommes chacun confrontés.
Et ce qui construit en même temps notre singularité dans la relation, évidemment. Delphine, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. C'était très agréable de vous entendre, et je vous souhaite une très belle fin de journée à notre écoute. Bien évidemment, vous allez rester à notre écoute jusqu'à 15h30, parce que le sujet vous intéresse.
Mais bien sûr, RTL passe dans mon magasin tous les jours.
Eh bien, on salue tous vos clients qui sont dans le magasin, justement.
Et ben voilà.
On vous embrasse et c'est Sophie dans un instant qui va nous rejoindre. À tout de suite.
RTL. On est fait pour s'entendre. Vous êtes bien sur RTL.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous. Donc jusqu'à 15h30 en votre compagnie, en compagnie de nos invités. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur l'application RTL ou sur RTL.fr puisque des caméras sont installées dans ce studio. Donc venez, installez-vous autour de la table pour pouvoir échanger avec Julie Neveu, Michel Feltin-Palas et Étienne Kern qui sont nos invités. Juste avant d'accueillir Sophie, vous vouliez, Étienne Kern, revenir sur l'emploi du tu et du vous et de ces fameux codes dont on s'affranchirait en tout cas aujourd'hui selon Michel Feltin-Palas.
Oui, Michel a prononcé ce mot très important de code. Effectivement, la langue est régie par des codes qui ont tendance à s'atténuer, mais qui subsistent puisque dans certains domaines de la vie, on trouvera normal qu'il y ait plutôt un tu, plutôt un vous. Je pense par exemple au code liturgique, je te baptise alors que le vous serait prononcé en temps normal. Et je pensais à l'exemple plus précis des manifestants. Il y a une sorte de code qui nous autorise à tutoyer un ministre ou le président pendant une manifestation, ce qu'a priori, on ferait jamais si on était seul face à la personne.
C'est l'effet groupe, l'effet meute.
C'est un cas très particulier puisque la prise de parole est en quelque sorte diffuse. Personne n'assume cette transgression. Elle est partagée et elle est comme neutralisée.
Julie
non, je pensais aussi, si on rentre dans un magasin, par exemple, de musique à Pigalle, et qu'on dit vous à celui qui vous vend une guitare, vous avez l'air vraiment bête. C'est-à-dire qu'il dit tu veux quoi à n'importe quel âge.
Donc c'est clanique aussi le tutoiement ?
Oui, c'est clanique et ça véhicule des idéaux, donc des idéaux culturels, de fraternité, de partage d'une culture, d'une valeur, d'un goût musical ici. Enfin, c'est clairement. Donc oui, il y a des codes à l'intérieur, de plus grands codes, il y en a partout. Et c'est vrai que mieux on les maîtrise, plus on est apte peut-être à soit s'y soumettre, soit s'en affranchir. Et là,
Je voudrais qu'on écoute deux exemples de tutoiement et de vouvoiement sur des moments d'histoire. On est en 1964, on est lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Et écoutez le discours d'André Malraux.
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé.
On en a encore des frissons, la voix chevrotante donc d'André Malraux en 1964. Entre ici Jean Moulin, héros de la résistance.
Mais c'est un cas très particulier.
Etienne Kern.
Il n'y a pas d'amitié ou de familiarité dans ce tu. C'est pas la valeur habituelle du tutoiement affectif. C'est un tu qui est au contraire très, très solennel, très rare, qui est comparable à ce qu'on trouve dans l'histoire un peu plus lointaine. Par exemple, à l'époque de Louis XIV, on peut tutoyer le roi dans ce seul cas, en poésie, ou dans un grand discours rhétorique, où c'est une convention. Et finalement, ce tu rappelle l'époque romaine où le vouvoiement n'existait pas encore et où il était normal de tutoyer le souverain. Et du coup, tutoyer Louis XIV, c'est un peu comme tutoyer, l'empereur Auguste, quelque chose comme ça. Et donc, il y a une survivance de cette forme très rare dans ce cas particulier de Moulin et Malraux.
Mais ce tutoiement n'est-il pas aussi une façon d'être patriote, je dirais, dans un moment d'histoire, Julie Neveu ?
Moi, je pense qu'il y a quand même, puisqu'il le dit à cette époque-là, ça t'attire sans doute de ce que vous dites, mais je pense qu'il y a aussi un résistant qui parle un autre,
ouais,
déjà.
Ça.
Et ça, c'est très important. Donc, ils sont d'égal à égal. Et surtout, il est au seuil du Panthéon. Donc, il le convie à rentrer dans cette assemblée de grands hommes. Donc, il y a une sorte d'héroïsation, évidemment, de mythologisation de la figure de Jean Moulin. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, une sorte de façon, par ce pronom, d'accéder à l'éternité de la vie. Une vie éternelle. C'est-à-dire que s'il rentre ici, il passe il devient existant, accessible en tant que, homme du Panthéon et que l'on peut tutoyer dans une sorte de mythologie. Voilà, des hommes.
C'est presque déique.
Oui.
Michel Feltin-Palas, en 1988, vous étiez forcément devant le débat.
Ah oui.
Ah oui.
De Mitterrand. De Mitterrand et de Chirac, d'entre-deux tours de la présidentielle. Les deux candidats s'affrontent. C'est au studio 101 de la Maison de la Radio. C'est le 28 avril, sous la houlette des journalistes Michel Cotta et Élie Vanier. Chirac était alors le premier ministre de François Mitterrand lors de la cohabitation de la 5e République. Écoutez.
Moi, je continue de vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Alors, voici de la joute qui aurait pu... on aurait pu imaginer un tutoiement, parce qu'on aurait pu le dire avec un tu et ça aurait été d'autres termes employés. Mais néanmoins, le vouvoiement rajoute
dans la...
Non, je dirais, on est sur le vouvoiement, mais le fait de ne pas parler, de ne pas utiliser pour Mitterrand le mot Premier ministre, c'est une manière de marquer sa distance. Et c'est, ce qu'il faut voir, c'est que moi qui suis un ancien journaliste politique, Mitterrand était très familier de cela. J'ai deux anecdotes, enfin, qui sont peut-être plus que des anecdotes. La première, c'est que lorsqu'il est abordé, lorsqu'il était premier secrétaire du Parti Socialiste seulement, si je puis dire, et que des militants voulaient le tutoyer, il disait, je peux tutoyer, il disait, mais vous faites comme vous voulez.
Vous faites voilà. Ce que vous voulez.
Et donc, c'est la même technique, en fait.
Oui.
Alors là, c'est un peu différent. Lorsqu'il est arrivé à l'Élysée en 81, il a exigé deux choses. Que tous ses ministres, y compris les rares qui le tutoyaient, le vouvoient. Et qu'on l'appelle Monsieur le Président et non plus François, etc. Donc là, c'était pour marquer le respect que l'on devait, selon lui, à sa fonction, mais qui rejoignait un peu le respect qu'il aimait que l'on porta à sa personne.
Mais s'il s'était mis un peu sur la tronche dans un débat en se tutoyant, le vocabulaire aurait été tout à fait différent, Julie.
Oui, bien sûr, c'est toujours la même stratégie. C'est sûr que c'est un refus de la réciprocité qu'à chaque fois il manifeste. Voilà, oui, bien sûr.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Nous allons passer par l'information, puisque voici Olivier Bois qui rentre dans ce studio. On se retrouve juste après. On va parler notamment du vouvoiement en amour. Eh oui, ça existe encore, figurez-vous. Et Dieu que c'est joli. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Oh qu'il est beau ce sujet d'aujourd'hui, le tutoiement, le vouvoiement. On navigue dans nos conversations et on s'intéresse justement à leur emploi avec nos invités. Il y a un instant, on entendait cet extrait du président Mitterrand, de Jacques Chirac, l'entre-deux-tours à la présidentielle. Vous vouliez réagir, Étienne Kern.
Oui, parce que ce que montre cette anecdote, entre autres, c'est que le tu et le vous, ça concerne aussi l'image publique qu'un homme politique veut donner, une femme politique veut donner de lui ou d'elle-même. Mitterrand se faisait surnommer le Sphinx. De même que De Gaulle se voulait inaccessible, une sorte de statue. Alors que par contraste, Nicolas Sarkozy, qui axe sa campagne sur la rupture, va devenir le président hyper tutoyeur, qui tutoie tout le monde d'office. Il a même, et c'était un coup de tonnerre dans l'histoire de la Ve République, imposé au début le tutoiement en Conseil des ministres. Et puis on a fini par revenir au vouvoiement malgré tout, parce que le fameux casse-toi pauvre con lui a beaucoup nui et a été retourné contre lui. Et donc à partir de 2008, on revient en arrière. Tandis que quand Hollande ensuite arrive au pouvoir, il veut rompre avec la rupture. Et va expliquer très solennellement que le vouvoiement doit être la seule forme autorisée, normale.
Le vouvoiement, donc, de retour. Le vouvoiement dans les familles, on en parle avec Sophie, qui vit à Belfort. Merci pour votre patience, Sophie. Soyez la bienvenue.
Merci beaucoup, bonjour.
Alors, est-ce que vous ne tutoyez pas facilement parce que, justement, vous étiez, alors si je puis dire, dans l'obligation de vouvoyer vos grands-parents paternels ?
Oui, je crois que c'est ça. En fait, il n'y a pas si longtemps que j'ai essayé de comprendre pourquoi le tutoiement était si difficile pour moi. Et en fait, en réfléchissant bien, je me suis dit c'est peut-être un petit peu logique, puisque effectivement, je devais vouvoyer mes grands-parents. J'ai toujours vouvoyé mes grands-parents.
Alors, vos grands-parents paternels, en revanche, vous pouviez tutoyer vos grands-parents maternels. Est-ce que ça n'était pas confusant pour la petite fille que vous étiez ?
Eh bien non, parce que c'était quelque chose qui était tellement inscrit en fait, donc je savais que quand j'étais du côté de ma maman, je tutoyais, et du côté de mon papa, je vous voyais. De toute façon, je n'étais pas la seule à faire cette gymnastique, mais qui était pour moi naturelle, et je voyais bien qu'il pouvait y avoir une différence. Je n'avais pas les mêmes relations entre mes parents paternels et maternels, mais j'arrivais facilement à faire cette gymnastique et à m'adapter aux grands-parents que j'avais en face de moi.
Alors, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça avait une influence sur les relations, sur les démonstrations d'affection ? Est-ce que ça a été peut-être plus facile avec vos grands-parents maternels plutôt qu'avec vos grands-parents paternels ?
Absolument, oui, c'était clairement différent.
Comment les appeliez-vous d'ailleurs ? Pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais comment les appeliez-vous ?
Alors, mes grands-parents paternels, c'était Pépé et Mamie.
D'accord.
Tout simplement.
Donc classique, quoi.
Ouais. Voilà, classique. Mais effectivement, il fallait qu'on vous voie. Donc c'est vrai que, du coup, en termes de relations, il y avait une distanciation assez importante avec ce vouvoiement.
Ça avait une influence sur la manifestation de la tendresse, par exemple ?
Pleinement, oui, tout à fait.
Oh,
il y avait toujours une distance. En fait, il y avait beaucoup moins de naturel que je pouvais avoir avec mes autres grands-parents.
Est-ce à dire que votre père, vous voyez ses parents ?
Oui, c'est ça.
Et vos grands-parents vous tutoyaient ?
Oui, absolument.
Et est-ce que vos grands-parents paternels tutoyaient leur fils ?
Oui.
D'accord. Non, j'essaie de comprendre si effectivement c'est une forme de hiérarchie dans la famille, un système de respect imposé. Comment ça se passe, vous, avec vos enfants ?
il me tutoie, on se tutoie. Il n'y a jamais eu de... Enfin, par rapport à ça, c'était pas du tout un modèle que je souhaitais mettre en place avec mes enfants.
Parce que qu'est-ce que vous en avez retiré justement de ce modèle?
Cette distance, justement, cette affection qui pouvait être distante, parce que ce vouvoiement pour moi était vraiment un rempart à la relation.
Michel Feltin-Palas, le vouvoiement dans les familles, c'est quelque chose qui nous paraît, pardonnez-moi hein, Sophie, mais un peu dépassé.
Oui, alors ce n'est pas de statistiques en la matière, mais je pense que c'était une règle qui était assez répandue dans les familles bourgeoises et à fortiori aristocratiques il y a de nombreuses décennies de cela, qui a en grande partie disparu, donc qui est maintenant l'apanage de très rares familles, mais comme le disait très bien Julie tout à l'heure, à partir du moment où le tutoiement devient un nouveau conformisme, il est possible que le vouvoiement reprenne des couleurs auprès de ceux qui veulent rompre avec les générations précédentes.
Julie Neveu.
Moi, je vouvoyais aussi mes grands-parents, du côté maternel. Et ce que je trouve intéressant par rapport au témoignage de Sophie, donc c'est vrai qu'un enfant, il ne vouvoie pas naturellement. Ça ne lui vient pas quand même très naturellement. Au début, il dit tu, hein, l'enfant. Donc c'est vrai qu'il a fallu, sans doute pour Sophie, peut-être pour moi, je ne m'en souviens pas, on était trop petite, mais un moment de contrainte, un moment où on fait comprendre qu'il y a le vous. Et donc, je pense que c'est pour ça que le vous devient signifiant. Parce qu'il y a eu un moment où il a été imposé et qu'il allait contre un usage spontané. Parce que par ailleurs, des emplois codés, vous arrivez, c'est vous. Il peut y avoir toutes sortes d'affections. Je connais toutes sortes de relations magnifiques avec des vous, sans même parler de l'amour, où il y a beaucoup d'affections et ça n'empêche pas. Donc ça dépend vraiment de la façon dont on s'est emparé d'un marqueur.
Oui, parce que Sophie nous parle même d'une gymnastique, Étienne Kern. Hein. C'est une gymnastique que d'adopter le vouvoiement ou le tutoiement en fonction de ses interlocuteurs.
Oui, mes camarades disent si bien les choses que je ne sais pas quoi ajouter, mais c'est vrai. C'est une négociation permanente.
C'est ça. Voilà. Une négociation intérieure permanente. Mais on peut l'avoir avec des gens qui nous sont plus ou moins proches, des gens de la vie quotidienne, mais le lien du sang, c'est encore autre chose, dirais.
Mais j'ajouterais aussi la relation à la belle famille, qui est, pour le coup, autant, il y a quelques statistiques qui disent qu'il y a à peu près 20 000 familles qui perpétuent le vouvoiement bourgeois, en fait, des enfants vers les parents. Mais la question du vouvoiement ou du tutoiement pour les beaux-parents se pose à beaucoup, beaucoup plus de personnes. Et là, pour le coup, les statistiques disent que près de 80% des personnes vouvoient leurs beaux-parents. Et on peut constater qu'il y a de légères différences entre le beau-père et la belle-mère, qu'on tutoie un petit peu plus la belle-mère, ce qui est assez intéressant en termes de représentation de la femme, en fait. De même qu'il y a des déséquilibres selon l'identité sexuelle en entreprise. Près de 70% des hommes tutoient leur supérieur direct en entreprise, mais seulement près de 50% des femmes. Et donc il y a l'idée que, en fait, des siècles de conditionnement ont créé... l'idée que la femme intériorise, l'idée qu'elle doit s'écraser, ce qui, heureusement, est en train de disparaître.
Je vous le confirme. Sophie, est-ce que vous voyez l'homme que vous aimez?
Non, je le tutoie.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque, les couples qui se vouvoient?
Ça peut être étonnant, je trouve, à mon goût, mais pourquoi pas.
Et ça tombe bien parce qu'on va en parler dans un instant. Sophie, je vous embrasse. Merci d'avoir accepté notre invitation. À bientôt.
Merci
sur RTL.
Vous.
Au revoir.
RTL. Ferry Flamand.
César, Vincent Perrault et Dominique Besnéard vous feront vivre cette 46e cérémonie et Stéphane Boutsock sera en direct de l'Olympia pour vous raconter les coulisses de cette grande soirée.
14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Didier nous demande, mais pourquoi sur les chaînes de télévision et de radio, vous voyez-vous tous alors que l'on sait très bien que dans la vie, vous tutoyez? Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Vous avez parfaitement raison, Didier. On va la faire très courte parce qu'on va parler d'amour, mais tout simplement parce que ce sont des codes, Michel Feltin-Palas.
Oui, bien sûr, il y a des codes à respecter. C'est une forme de respect des auditeurs, d'une certaine
manière.
Pour ne
pas vous exclure. Voilà, c'est ça. Et ça, moi, c'est... entendu ça pendant toute ma carrière, cesse de vous voyez. Et je racontais hors antenne quand effectivement Yannick Noah arrivait pieds nus sur mon plateau et qui me disait « Salut, comment tu vas ?» et que moi j'étais perché sur des hauts talons et que j'ai « Bonjour, ravi de vous recevoir Yannick », il me regardait et me disait « Mais t'as craqué ou quoi ?» Et en fait c'était pour ne pas vous exclure Didier, c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de nous contraindre à cette autorité-là. Emmanuel nous parle de la Polynésie, on y reviendra dans un instant avec Paul Taylor aussi. Ayant vécu 14 ans en Polynésie, j'ai du mal avec le vouvoiement car là-bas le tutoiement est de rigueur, sans aucune atteinte au respect et peu importe le niveau social. Mais pour l'heure, parlons d'amour. Il y a un instant, Julie nous disait, mais le vouvoiement en amour, moi ça me semble très étrange, peut-être très étonnant. Moi je trouve ça très joli. On va écouter, si vous le voulez bien, quelques extraits. Jean Gabin, Michel Morgan dans le film Le Quai des Brumes.
T'as de beaux yeux, tu sais.
c'est moi.
Ellie.
Embrasse-moi encore.
T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi, lui répond-elle. Embrasse-moi encore, répète-t-elle. N'est-ce pas beau, Julie Neveu ?
Mais c'est magnifique. En fait, tout est possible. C'est-à-dire que dans le désir qu'on peut éprouver pour une nouvelle personne, ou une personne qui est toujours la même d'ailleurs.
Oui, mais c'est justement. Alors, vous savez quoi ? Eh bien, je trouve fabuleux ce que vous venez de dire, parce que pour moi, le vouvoiement est un renouvellement de la conquête.
Voilà, exactement. Donc, vous disiez, la vie, mais vous en parlerez vous-même pour vous-même, que vous aimiez utiliser vous.
Oui, moi, je dis vous en amour. L'homme voilà. que j'aime, je le vouvoie. Voilà. Absolument.
Et si vous l'inscrivez dans la continuité, je trouve que c'est une force qui prouve que vous tenez sur la longue durée le respect, le mystère de l'autre. Et c'est vrai que c'est dans cette différence qu'a l'autre pour vous que réside la possibilité du désir.
Oui.
On va vers quelqu'un parce qu'il n'est pas là sur nos genoux. Quoi.
Voilà, exactement. Et cette idée du renouvellement, cette idée que l'autre nous est quelque part toujours un petit peu étranger, et l'idée du non-acquis, Étienne Kern.
Oui, ça renouvelle la relation, et aussi ça la singularise. Mm-hmm. L'étrangeté même de cette pratique fait que il y a une personne, pour ces couples qui pratiquent cette pratique pronominale, la relation est vraiment toute différente.
On dirait une pratique sexuelle, mais c'est très érotique, on y reviendra.
Il y a une dimension érotique aussi dans le tuez-vous, c'est certain. Et ce que je pourrais ajouter peut-être, c'est que souvent, en fait, il y a une dimension fortement ludique dans ces cas-là, les couples disent eux-mêmes qu'ils passent du vous au tu, il joue avec ça.
Et c'est ça qui est magnifique.
Et il y a une citation magnifique, puisqu'on a entendu Gabin. J'ai en tête une interview de Michel Piccoli, qu'on interroge sur son mariage avec Juliette Gréco il y a des années. Et Piccoli explique qu'il vouvoie en général Juliette Gréco, son épouse à l'époque, mais que par moments il la tutoie. Et que dire tantôt tu, tantôt vous, et bien ça fait une vie en plus.
Eh bien, écoutez justement Bernadette Chirac qui parle de son mari Jacques en 2014.
Jamais vous ne vous êtes tutoyé avec Jacques Chirac.
Ah, je le lui interdis. Quand il veut me mettre de mauvaise humeur, il me tutoie, tous ses amis se mettent à rire parce qu'ils savent très bien c'est la chose qui m'agace. Non, écoutez, il faut rester fidèle à ses traditions.
C'est joli ça aussi, hein. C'est-à-dire que tout à coup le tutoiement prend une autre dimension, Michel Feltin-Palas, dans la relation amoureuse.
Oui, il se trouve, par hasard, moi j'ai écrit un livre sur la relation des Chirac entre eux. Le couple Chirac est extraordinaire, mais on pourrait faire une émission à soi seul. C'est un drôle de couple, quand même.
On va pas en rester là.
Non, mais je veux dire, le rapport de Jacques Chirac à Bernadette Chirac
était singulier.
C'était un vrai couple, mais un couple où il était de notoriété publique que Jacques Chirac avait le droit de tromper sa femme, tant
et
plus.
Et il se dit d'ailleurs qu'il tutoyait.
Et pour autant, il était amoureux d'elle, c'est
alors,
ça qui est très curieux.
Bien sûr, et qui est leur histoire, mais
après,
pour autant, il tutoyait ses maîtresses.
Bernadette de Courcelles.
Oui.
Donc, vu son milieu et vu l'ambition du Chirac jeune, voilà. il allait de soi qu'il fallait qu'il respecte les conventions sociales de sa belle famille.
Étienne Kern.
On a le témoignage de Claude Chirac, l'une des filles du couple présidentiel, qui expliquait que Jacques Chirac tutoyer ses maîtresses, donc les personnes qui ne comptent pas en fait, et vous voyez ce point de repère dans sa vie, qui est son épouse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en politique, il faisait à peu près la même chose. Parce qu'on sait que Chirac, vous voyez ses alliés les plus fidèles, comme Juppé ou Villepin, et tutoyait à peu près tous les autres.
Ouais, c'était une façon effectivement singulière. Hein, voilà, exactement. On parlait d'érotisme, hein, parce que le vous, et je trouve en tout cas fabuleusement érotique. Allez, on va au cinéma et on se retrouve dans La vie est un long fleuve tranquille. Regardez un petit peu comment Monsieur Jean Le Quesnoy s'adresse à sa femme Marielle.
Marielle, vous savez que vous êtes très belle en ce moment. Vous me faites bander, Marielle.
Vous me faites bander, Marielle. N'est-ce pas beau ? Non mais oui, Julie Neveu.
C'est vraiment le lieu de la transgression parce que donc la situation érotique où on s'apprête peut-être à basculer sur le lit, bon, a priori les distances vont être réduites. Et là, en effet, de maintenir le vous qui est la frontière, c'est vraiment l'éveil de toutes les promesses, quoi.
Et
c'est...
en basculant sur le lit, on peut basculer dans une autre forme de langage que le vouvoiement va presque mettre en valeur aussi.
Oui,
le
Ariel
langage de l'érotisation.
Ariel Dombal dit que le vous est une caresse
avec Bernard-Henri Lévy
de sonorité.
Oui. Je peux faire mon...
Et puis, il y a la dimension aussi ludique, presque de sketch, en fait. On joue à redécouvrir un inconnu, quoi. Ou une inconnue, dans ce cas-là.
Non, c'est un point phonétique, ça prend une seconde.
Allez-y,
j'aime bien.
La linguiste.
Alors, vous, si vous faites... En fait, ça vibre, vos cordes vocales vibrent, alors que le te, et ça vibre pas. Donc c'est vrai que le vous pouvez le prolonger, et il y a plus de résonance dans le corps, donc c'est peut-être ça aussi, Flavie, qui vous fait vibrer.
Bah, très bien. Je ne suis pas la seule à vous voyer l'homme que j'aime. Hein. D'abord, j'apprécie qu'il me vouvoie, mais il est d'autres couples hein, qui se vouvoient, je crois, encore en France. Hein, on n'est pas les seuls. On va se retrouver dans un instant. On va accueillir un humoriste britannique, c'est Paul Taylor. Qu'est-ce qu'il a pensé des Français quand il a débarqué chez nous? Parce que le tutoiement est vraiment très courant. Le vouvoiement n'existe pas.
Oui,
ou le tutoiement. Enfin, il va nous raconter. À tout de suite.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30.
On va aller très vite si vous le voulez bien. Mélissa, je suis bien contente parce qu'elle m'écrit, il nous arrive avec mon conjoint d'utiliser le vouvoiement pour nous faire la cour. N'est-ce pas joli, se faire la cour? Voilà, c'est peut-être d'un autre temps, mais comme il est romantique. Paul Taylor nous rejoint sur RTL. Bonjour Paul.
Hello.
How are you?
I'm good, how are you?
I'm fine. Quand je vous dis how are you, je vous dis comment vas-tu ou je vais dire comment allez-vous, Paul?
Bah, comment vas-tu? Je sais pas. Comme j'ai entendu avant, ça n'existe pas en Angleterre. Le vouvoiement, c'est you and you et c'est tout. Et quand on est fâché, on dit fuck you, mais à part ça.
Alors voilà, c'est ça. Et Paul, vous nous avez confié que les interactions en France se font un peu avec le balai dans le cul.
Oui,
ce qui veut quand même tout dire, ce sont vos mots. Hein.
Oui, je trouve que j'écoutais un peu avant ce qui se passait, puis je trouve ça assez intéressant. Et parfois, ça peut être poétique et très sympa, mais dans les interactions, dans la vraie vie, disons, moi, ça me perturbe. J'arrive pas à trouver. En fait, moi, je suis très mal à l'aise parce que comme je suis habitué à l'anglais où il n'y a pas cette barrière en plus. Déjà, on a plein de barrières dans la vie pour communiquer avec les gens, que ça soit orientation sexuelle, la religion, de quel pays tu viens. Là, en France, on rajoute encore une barrière à la communication humaine, et donc du coup, c'est la phrase "Est-ce qu'on peut se tutoyer" qui me rend le plus mal à l'aise. Je sais pas quand est-ce que je peux demander la permission. J'ose pas. L'autre personne n'ose pas non plus. Donc, on continue à se vouvoyer même si c'est. J'ai du mal.
vous trouvez que ça rend les Français plus difficilement accessibles?
Quand vous parlez français, oui. Dans les autres langues, non. Parce que forcément, quand vous parlez anglais, bah, vous tutoyez comme oui. Nous. En fait, il n'y a qu'une manière de faire. Mais c'est vrai que j'ai vécu un an à Montréal avant de venir vivre en France. Et je trouve que les interactions sont beaucoup plus sympas et les gens sont beaucoup plus chaleureux là-bas. Parce que très vite, ça va vers le tutoiement, que ce soit les serveurs dans les cafés, etc. Et je trouve qu'il y a juste... Il y a une barrière en moins, il y a quelque chose de plus convivial, je trouve, tout de suite, avec les interactions humaines.
On n'a pas le temps là d'avoir Muriel, malheureusement, au téléphone, et on l'embrasse. Elle vit en Allemagne, elle a passé elle-même 5 ans au Mexique, le tutoiement y est très facile. En Allemagne, le tutoiement est plutôt très choquant, et donc elle explique effectivement la difficulté pour elle de passer d'un pays à l'autre. Julie Neveu, une réaction au propos de Paul.
Mais oui, et de Muriel, mais en fait c'est sûr que tout ça sont des codes culturels, et que Paul exprime la difficulté d'apprendre à manier ce code. Mais je pense néanmoins que mieux il le maîtrisera et moins il le gênera, et que par ailleurs peut-être que le moment de la bascule vers le tu du coup apportera du plaisir. Vous voyez, c'est quand même, plus il y a de variations, plus il y a de plaisir, plus il y a de choix possibles, et plus on peut s'en emparer et exprimer du sens. En fait, c'est quand même ça. Plus vous avez de possibilités de dire quelque chose, plus vous pouvez avoir une finesse dans ce que vous dites, du rapport que vous avez à l'autre, etc. Donc peut-être Paul peut-il reconsidérer son rapport à l'alternance.
Ce qui m'a toujours perturbé encore plus maintenant que je suis humoriste, et que justement on a eu la question un peu avant à la télé et à la radio, on se tutoie tous et après on commence à se vouvoyer, et ça m'a toujours rendu très bizarre et d'un coup parce que limite j'ai envie d'être invité dans la convivialité entre la personne interviewée et l'intervieweur, comme dans les télés américaines où il y a Jimmy Fallon et Brad Pitt. Bah, ils se tutoient et puis on c'est cool, c'est sympa. Lorsqu'ici, je trouve que les interviews sont toujours très malaisantes télé entre les gens.
Oh, ça va? Non, mais oh. Paul, vous viendrez dans mon studio la prochaine fois, vous verrez qu'on y est très bien, Paul. Je rappelle votre spectacle So British ou presque au Grand Rex les 23 et 24 avril. Alors là, on espère vraiment que tout ça aura réouvert. Et vous serez en tournée sous réserve de réouverture des salles et sur votre chaîne YouTube également avec vos Happy Hour tous les lundis. Donc ça, c'est cool, Happy Hour.
Yes.
Merci beaucoup, thank you so much,
thank
Paul Taylor.
Much.
À bientôt, merci. Paul. Merci à vous. Michel Feltin-Palas, je voulais vous poser une question, mais j'ai oublié. Et puis, de toute façon, il est l'heure pour moi de vous saluer. Voilà, ça tombe très bien. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à L'Express, que l'on retrouve également votre lettre d'information sur la langue française et les langues de France sur Le Bout des Langues. Et puis, votre livre coécrit avec Jean-Michel Apathy chez Michel Lafon, J'ai un accent et alors. Merci à vous, Michel Feltin-Palas, d'avoir accepté mon invitation. Julie Neveu, merci beaucoup. Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous. C'est super et c'est aux éditions Grasset. À très bientôt. Merci beaucoup, Julie. Étienne Kern, merci beaucoup. Le tu et le vous, l'art français de compliquer les choses chez Flammarion. Beaucoup de nos auditeurs, et je vais vous demander une réponse très rapide, nous demandent la différence entre vouvoiement et voussoiement. Le voussoiement, c'était quelque part, c'est l'ancienne façon de parler du vouvoiement.
C'est un mot un peu vieil ou un mot qui était peut-être plus important au 19e que vouvoiement, mais depuis les années 50 à peu près du 20e siècle, le vouvoiement s'est largement imposé dans les usages.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là. On pourrait en faire et en faire encore et encore sur ce sujet. C'est magnifique. J'espère vous recevoir bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous tous. C'est vendredi, donc c'est l'heure de nous souhaiter un bon week-end. On se retrouve demain dès 9h15 hein, pour votre magazine Conso du week-end. Nous voilà bien avec notre enquête sur les frais bancaires. Et oui, on peut faire des économies, figurez-vous, si on se penche bien dessus. On vous donnera tous les trucs demain à 9h15. Et lundi, dès 14h30, ce sera le retour de En effet pour s'entendre pour une semaine de psycho, de philo, de sociaux. Prenez soin de vous et très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse.
RTL. On est fait pour s'entendre.